Trait d'union en compagnie ce soir, ce midi plutôt, de Isabelle, Lucille,
Élise,
c'est beau aussi Lucille, Alexandre et Eric.
Bonjour.
Eric qui est, on va dire, un peu le chef d'orchestre, c'est toi qui nous as mis en relation avec Trait d'union et peut-être resituer pour nos auditeurs cette structure.
Oui, tout à fait, Bruno. Donc, pour resituer l'URIAP, ça, c'est un terme qui est un peu barbare. Donc, c'est l'Union régionale interfédérale des organismes sanitaires et sociaux à but non lucratif. Pour faire rapide, c'est une tête de réseau du secteur social, sanitaire et médico-social. Donc, on regroupe à peu près 1100 associations qui sont de grosses associations sur les Hauts-de-France, mais aussi de petites associations de quartier sur les plans de la protection de l'enfance, la lutte contre les exclusions des personnes âgées, des personnes en situation de handicap.
De plusieurs items, donc.
Voilà, tout à fait. On balaye tous les champs du secteur sanitaire, médico-social et social. Et grâce à vous, hein, Bruno, on a aussi, on est rentré en relation avec Radio Holzpingel.
Très bien.
Voilà, bah, j'ai appris mon Cassel par cœur. Hein, donc, valoriser notre plateforme d'initiative locale qui s'appelle la Toile solidaire de Flandre intérieure. Et on s'est dit qu'une émission de radio, donc Trait d'union, ce serait pas mal pour valoriser aussi les acteurs du territoire de Flandre intérieure, du secteur sanitaire, médico-social, lutte contre les exclusions, insertion aujourd'hui particulièrement. Parfois méconnus, des habitants qui ont pourtant besoin de ces acteurs associatifs sur de l'accompagnement de quelque nature qu'il soit.
La zone géographique, c'est la totalité du Hauts-de-France ou bien situé autrement ?
Absolument. Donc, on a une zone géographique qui balaye les 5 départements hein, et on a des chargés de développement territorial sur les 5 départements des Hauts-de-France. Moi, je suis plutôt sur les Flandres et la Melle, Flandre intérieure, Flandre maritime et la Melle. Mais effectivement, on est sur les Hauts-de-France.
On va préciser que Metz, c'est métropole européenne de Lille.
Merci de cette précision, Bruno, effectivement. On fait un focus, effectivement, sur Flandre intérieure, parce qu'on se dit qu'il y a des acteurs très, très importants. C'est une zone qui est rurale aussi, hein, par certains endroits. Et donc, des personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement spécifique et, j'allais dire, de proximité.
L'URIAP, par elle-même, c'est une association ?
Alors l'URIOP, c'est une association. Alors attention, on ne va pas être à genoux depuis 1947, qui est relié à un réseau national qui s'appelle l'UNIOPS, Union Nationale, qui fédère des URIOPS.
Donc quelque chose qui se crée après le Deuxième Conflit Mondial.
Absolument.
Et à l'époque où on recherche du travail, on recherche du personnel.
Absolument, et qui organise un peu à l'origine les secteurs qui se professionnalisent. C'est le début de la professionnalisation des métiers du social et du médico-social. Et donc l'UNIOP qui va à l'époque organiser sur le territoire avec d'autres fédérations, hein, il n'y a pas que l'UNIOP, mais ces métiers du secteur médico-social.
Toi-même, ça fait déjà plusieurs années que tu agis dans cette association.
Moi, ça fait... alors, je ne suis pas un ancien, mais Ça fait 8 ans que je suis à l'URIOPS Hauts-de-France. Voilà. Puis auparavant, moi, je suis travailleur social de formation.
On va partir en musique avec une Naraglionia avant de retrouver Isabelle, Élise et Alexandre. Radio SPL 91.8, l'émission Trait d'Union en compagnie aujourd'hui, entre autres, de Isabelle Lemoine. Isabelle,
bonjour.
C'est Propulse. Alors, ce sigle signifie quoi exactement et quel est ton rôle?
Oui, bonjour. Donc, je suis Isabelle Lemoine et je suis donc salariée de l'association Emploi-Formation Vallée de la Lys Flandre Intérieure. Donc, merci déjà de nous avoir invités aujourd'hui et de nous permettre de présenter notre dispositif qui s'appelle les ateliers Propulse. Propulse, comme son nom l'indique, l'idée vraiment c'est de donner un nouvel élan et de permettre voilà, à des personnes peut-être en difficulté de se remettre en mouvement, de se remettre en dynamique. Voilà pourquoi nous avons choisi ce nom.
L'historique par lui-même de cette association Propulse.
Alors, l'association Emploi-Formation Vallée de la Lys Flandre Intérieure, désolé, c'est un nom qui est un peu long, hein, a été créée donc en 1995. Tout comme le RIOS, bah, il s'agit vraiment d'une association loi 1901, donc à but non lucratif. Et ça a été créé bah, par la volonté des élus de Flandre dans le but de proposer aux demandeurs d'emploi en difficulté un accompagnement emploi un peu plus poussé.
C'est les personnes qui viennent à l'association qui font la démarche ou vous rencontrez dans des salons ou dans des entreprises des personnes qui sont en recherche d'emploi?
Ben, c'est les deux en fait pour se faire connaître en fait de l'association, plusieurs possibilités. Effectivement, les personnes peuvent venir nous voir directement, mais nous travaillons également avec l'ensemble des partenaires emploi du territoire, France Travail, les centres sociaux, les CCAS, toute association qui aujourd'hui pourrait accompagner hein, une personne en difficulté. Nous faisons effectivement des forums sur divers sujets, donc c'est là aussi où nous rencontrons le public. Il faut savoir aussi que cette association porte la mission locale d'Armentières Vallée de la Lys et le PLIE Flandre Lys, donc PLIE, P-L-I-E, qui veut dire Plan Local Insertion Emploi.
Ce territoire, il a une particularité?
Oui,
par
tout
lui-même.
À fait. Tout à fait. Alors le territoire de Flandre, donc, nous intervenons sur le territoire de l'Armentierois qui lui est rattaché à la MEL, Métropole Européenne de Lille. Également bah, sur toutes les communes de Flandre intérieure et sur les communes du département du Nord de Flandre-Lys. Donc c'est un territoire, comme on l'a dit précédemment, qui est rural et puis qui est aussi situé géographiquement parlant entre deux grands pôles hein, que sont bah, Lille et Dunkerque. Donc voilà, un territoire avec des particularités, oui, forte ruralité. Parfois, difficultés de mobilité aussi.
On sait à peu près le taux de chômage qu'on a dans ces territoires?
Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais on est quand même sur un taux de chômage
petite
assez
fourchette,
faible,
on va dire.
À peu près entre 4 et 5%.
Le profil des personnes qui sont en demande, il est parfois identique ou c'est totalement différent?
Non, ça peut être totalement différent. On va avoir des personnes bah, qui, voilà, qui peinent à trouver un emploi depuis plusieurs années, alors parfois lié au fait d'un manque de mobilité, voilà, c'est pas toujours évident. On va avoir des villes comme Merville qui n'ont pas de gare, par exemple. Donc pour se déplacer, c'est pas toujours évident. Mais on a aussi voilà, tout type de profil, tout type d'âge, vraiment c'est très, très variable.
Quand on rencontre des candidats, il y a, on va dire, une sorte de bilan de connaissances, de savoir vers quoi on peut les diriger.
Oui, oui, tout à fait. Nous réalisons ce qu'on appelle un entretien de diagnostic hein, dans notre jargon. Et effectivement, l'idée, c'est vraiment de faire le tour de la situation de la personne, de voir avec elle quelles sont ses difficultés, ses problématiques. Et tous les accompagnements sont bien évidemment adaptés au profil des personnes.
J'ai entendu dire qu'il y a une sorte de taux de réussite. Les gens qui viennent chez vous sont pratiquement sûrs de retrouver un emploi?
Alors, pratiquement sûr, nous n'avons pas une baguette magique.
Non plus.
Mais alors, nous visons un retour à l'emploi, ce qu'on appelle un emploi durable, c'est-à-dire plus de 6 mois et un jour, d'environ 50%. C'est-à-dire que si une personne, suite à notre accompagnement, bah, fait 15 jours d'intérim, par exemple, nous, on estime que ça n'est pas suffisant et nous continuons à accompagner la personne.
Parfois, des chômeurs de longue durée qui sont
oui.
présents, des gens qui sont peut-être aussi... je ne vais pas dire physiquement, mais mentalement un peu dégradé de par le fait de ne pas avoir d'emploi.
Oui, tout à fait. Alors, surtout au PLIE Flandre Lys, hein, nous accompagnons effectivement des demandeurs d'emploi de longue durée, des personnes également qui sont au RSA parfois depuis longtemps, des personnes qui sont en perte de confiance.
Jeunes, moins jeunes?
Alors, sur le PLIE Flandre Lys, ça va à partir de 26 ans. Hein. En fait, les moins de 26 ans sont accompagnés par la mission locale. Après 26 ans, c'est le PLIE Flandre Lys. Jusque 58 ans.
On va repartir en musique et on va se rapprocher de Dunkerque puisque ce sont les Dunkerkers. Radio Spirale 91.8, émission Trait d'Union. Isabelle, la spécificité de Propulse et depuis quand ça existe?
Alors, notre nouveau dispositif, hein, les ateliers Propulse, nous l'avons lancé à partir de novembre dernier, donc en 2025, et c'est un dispositif qui va jusque fin 2027, décembre 2027. Cette particularité, en fait, tout est parti d'un constat, hein, sur le territoire, constat partagé d'ailleurs par l'ensemble des acteurs de l'emploi comme France Travail ou encore le département du Nord, que bah, finalement une partie des publics demandeurs d'emploi qu'on peut accompagner se retrouve aujourd'hui en perte de motivation, en perte de confiance et ont des difficultés finalement pour réfléchir, repenser leur parcours emploi. Voilà, donc on fait tous, je pense, de l'excellent travail, quel que soit finalement le partenaire, quelle que soit la structure, hein, sur le territoire. Mais nous avons vraiment l'impression qu'il manquait une étape préalable, une sorte de sas préparatoire.
Ça signifie que les personnes qui viennent vous voir, ils ont besoin d'une structure.
Oui, bon, bien sûr. Bien
pour
sûr.
Les aiguiller, pour tout leur ouvrir des portes.
Oui, 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 tout à fait. Alors les personnes les plus en difficulté peut-être, hein, mais alors on sait aussi que la crise sanitaire a laissé des traces. Hein. Ça a été une période qui a été, pour certaines personnes, vécue de façon très, très difficile.
À tous les niveaux, que ce soit mental, emploi,
oui,
bien-être.
Tout à fait. Exactement. Et puis parfois, la simple idée de retrouver un nouvel emploi, tout simplement la peur, hein, c'est pas facile. Voilà. On sait que la recherche d'emploi est également parfois complexe, peut faire peur, peut entraîner du stress, de l'angoisse. Voilà. C'est pour ça qu'on a créé ce nouveau dispositif, les ateliers Propulse.
C'est redonner des envies aussi à ces personnes.
Oui, tout à fait. C'est l'objectif principal. Donc on n'est pas sur un accompagnement emploi au sens premier du terme, dans le sens où on ne va pas forcément faire le CV de la personne, on ne va pas faire des simulations d'entretien, ce genre de choses. Après, l'ensemble des acteurs sur le territoire, sait parfaitement faire cette activité. Là, l'objectif premier, c'est déjà de permettre aux personnes qui nous rejoignent de passer un bon moment, de se dire finalement, je ne suis pas seule à ressentir ça, à vivre
redonner
cette situation.
Redonner la confiance.
Tout à fait, redonner la confiance. C'est exactement l'objectif que nous cherchons à atteindre.
Vous voulez ne pas imposer aussi?
Oui, exactement. C'est un dispositif qui est déjà totalement gratuit pour les personnes et sur la libre adhésion. Ça n'est pas imposé aux demandeurs d'emploi.
Propulse par lui-même, le financement, c'est le département, c'est la région?
Alors,
c'est les collectivités locales?
Oui, c'est un financement multiple, effectivement. Mais en priorité, notre plus gros financeur à 92%, c'est l'Union européenne. Nous avons répondu à un appel à projet. Et après, le reste du financement est assuré par le département du Nord, par France Travail et par l'AMEL, Métropole Européenne de Lille.
C'est pas un peu embêtant le fait qu'il y ait un début et puis une fin certaine de Propulse?
Alors, c'est un défi, effectivement, qu'on va devoir relever. Hein. Ça va être de retrouver, effectivement, un financement pour la suite. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait la promotion du dispositif, pour en faire parler. Et oui, ça, c'est effectivement un défi qu'on va devoir relever.
On va repartir en musique avec un grand monsieur, Sylvain Géraud.
Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas, mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Des Lilas, des Lilas, des Lilas,
puis j'allais revoir la dune, au matin quand s'effacent mes pas, jamais plus les cimes et la neige éternelle,
et l'oiseau bleu brillant de mille éclats.
Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts
et ce lac bleu
perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas,
la rue des Lilas.
J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, danser le Lidapin pour repousser la mort, traquer la raque jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour bercer mon départ jusqu'à l'autre bord,
dire aux faiseurs de mort que l'on survit.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas,
car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui
ne se massacrent pas.
La guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, de gens qui profitent ce que j'ai,
mais qui ne se massacrent pas.
Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas, je m'éteins dans la rue des Lilas.
Radio Espiègle 91.8, l'émission Trait d'Union, et maintenant je vais en parler avec Élise, et là je ne me suis pas trompé.
Eh non, bonjour tout le monde, moi c'est Élise de Turc, j'ai 26 ans, je suis artiste peintre actuellement et je viens d'Hasbrook.
Et ton parcours professionnel?
Alors au niveau du
et parcours... comment tu arrives à Propulse? Alors, c'est la grande question qu'on peut se
Au niveau
poser.
Du parcours, moi je viens du lycée Sainte-Marie à Bailleul, donc j'ai fait un CAP et un bac pro en signalétique, enseigne et décor. Et après ça, au lieu de poursuivre, j'ai fait des jobs alimentaires en cherchant un peu ma voie.
Si on pourrait appeler des petits boulots.
Ouais, c'est ça.
En grand respect.
C'est ça. Donc j'ai fait un peu de tout. J'ai fait de la manutention, j'ai testé la coiffure, enfin j'ai fait nounou, du ménage. Vraiment, j'ai touché un peu à tout. L'année dernière, j'ai commencé en tant qu'artiste peintre à mon compte. Pour Propulse, c'est via le département du Nord qui m'a convoqué pour voir comment ça se passait, etc.
Lorsque tu les as rencontrés, tu t'es dit c'est l'association qu'il me faut, qui va me guider, qui va m'aider.
Sur le coup, non, j'étais plutôt sceptique. Je me demandais où ça allait me mener. Mais en tant qu'artiste à mon compte, en fait, je me suis rendu compte que j'étais très isolée socialement parce que je sortais plus beaucoup, mine de rien. Le travail, ça aide à sociabiliser. Et c'est vrai que quand on m'a parlé de ce dispositif, du fait que ça sortait de l'isolement, qu'il y avait pas mal d'ateliers pour rebooster au niveau de la confiance en soi, je me suis dit pourquoi pas essayer, ça coûte rien de toute façon, donc je me suis lancée.
Tu dis artiste, c'est pas compliqué en 2026 d'être artiste?
Si, c'est compliqué, il faut se battre, et c'est surtout que la demande est faible, et j'ai commencé à zéro en fait, donc sans réseau, sans rien du tout. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le sang, on va dire ça comme ça. Je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui, après un an dans le métier. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours pour la crédibilité et pour, bah, mes rêves, finalement.
Ouais. Il y a une expo qui est en préparation, je crois, à Gravelines.
Exactement.
En ta compagnie.
Effectivement, je prépare une exposition qui s'appelle Happy Kids TM, qui se déroulera au Centre culturel François Mitterrand à Gravelines et qui a pour sujet la résilience de l'enfant, où je travaille du coup une satire sociétale avec des personnages cartoonesques des années 50.
Cette inspiration, elle est venue de quelle façon? Elle n'est pas tombée du ciel. Il y a un moment de réflexion, certainement.
Effectivement. Alors, cette inspiration, à la base, je travaille beaucoup sur le thème de la mémoire, en fait. La mémoire et la transmission, c'est l'essence de mon travail. Et c'est vrai que, comme c'est un centre culturel, il y a énormément d'enfants et j'ai pensé directement au cartoon parce que c'est quelque chose qui a bercé mon enfance et je trouvais ça sympa d'utiliser la satire du cartoon pour justement parler des faits sociétals d'aujourd'hui.
Et quand tu parles de la satire du cartoon, tu veux dire quoi exactement?
Bah, des gags
cartoonesques. Peut-être préciser ce que c'est un cartoon pour nos auditeurs qui ne sont pas obligés de savoir.
Alors du coup, le cartoon, c'est un dessin animé. Là, j'ai ma spécificité dans les années 50, donc c'est vraiment le début du dessin animé. Mais sinon, pour revenir à ce que tu disais,
T'as perdu le fil de ton histoire.
Oui, c'est vrai, j'ai perdu le fil.
Tu matérialises de quelle façon ce cartoon dans ton exposition, au niveau de tes œuvres? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Des mobiles, des tableaux, des sculptures?
Alors, moi, je suis vraiment illustration et peinture. Moi, je travaille à l'acrylique et au bic. Donc, ça va être exclusivement de la peinture pour cette exposition. Et j'ai repris le fil. Pour le cartoon et son côté satirique, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de censure. Et du coup, on détournait cette censure.
Pour pouvoir encore s'exprimer et dire des choses.
C'est ça.
T'as pas l'impression que cette censure revient un peu en ce moment?
Bah justement, et c'est pour ça que j'utilise spécifiquement le cartoon des années 50 en reprenant ce système de censure.
Il y a une longue préparation pour présenter une expo et la superficie de cette expo vers elle-même, c'est quoi? C'est une petite pièce? C'est un hall? C'est...
Alors c'est un énorme hall d'entrée et un couloir, donc il y a de quoi faire. Et là j'ai eu un peu moins d'un an, je crois, 10 mois, quelque chose comme ça.
Pour le préparer?
Pour la préparation.
T'as jamais voulu à un certain moment rentrer dans une école d'art, les beaux-arts, des choses comme ça?
Alors,
c'est pas quelque chose qui t'a tenté?
Alors si, ça m'a tenté, j'ai fait les concours pour les beaux-arts de Lille. Et malheureusement, j'ai pas été prise, donc j'ai voulu changer de voie un moment, faire animatrice, etc. Et au final, c'était quelque chose qui, sur le long terme, me convenait pas. Et l'art m'a rattrapé. Donc.
Tu sais où tu veux aller?
Oui, c'est ça. Et je l'ai toujours plus ou moins su, ça c'est la chance que j'ai.
L'humain par lui-même, c'est quelque chose qui t'intéresse?
Oui,
puisque...
beaucoup.
Je serais tenté de dire que tes expos par elles-mêmes, c'est une façon de parler, de t'exprimer pour toi.
Oui, oui.
Il y a une démarche par rapport à l'émotionnel. J'aime bien ce terme.
Tout à fait. Surtout que là, hors Happy Kids, je travaille beaucoup sur le thème des maladies neurodégénératives. C'est un gros pan de mon travail. Je réalise des toiles que j'intitule « Dégénérescence ». Où j'utilise la toile comme un réceptacle du souvenir qui se dégrade.
Et cette inspiration par elle-même, elle vient de quoi? Des faits que tu as connus, de personnes de ta famille, de choses que tu, personnes que tu as rencontrées?
Alors, moi j'ai travaillé en EHPAD, juste avant le Covid justement, et notamment j'ai connu le service Alzheimer, c'est une expérience qui m'a beaucoup touchée. Et au-delà de ça, mon père est malade d'une maladie neurodégénérative. Donc c'est quelque chose que, oui, j'ai...
Qui t'a motivé?
Oui, c'est ça. Je voulais vraiment que les gens puissent visualiser la dégénérescence d'un souvenir parce que c'est quelque chose qui touche et qui, malheureusement, se répand de plus en plus.
Je crois qu'il y a une peur aussi du public par rapport à ces maladies qui sont mal connues, méconnues.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la réaction en salon, Elle est vraiment variable. Il y a des gens qui vont être vraiment rebutés de regarder la toile parce que du coup, il y a vraiment cet aspect ouais, émotionnel fort qui rentre en jeu, surtout pour les personnes qui ont connu justement des personnes atteintes de maladies neurodégénérées.
Je crois que c'est l'expérience que tu as eue dans un EHPAD, ça t'a pris au cœur.
Oui, tout à fait.
On ressent une certaine sensibilité de ta part.
C'est ça, j'ai rencontré des personnes fabuleuses là-bas et c'est vrai que c'est des maladies très complexes et souvent méconnues, mine de rien. C'est des grands noms, Alzheimer, etc. Mais finalement, on rentre jamais en profondeur dans le sujet par tabou ou par peur parce que c'est vrai que c'est des maladies qui font peur. Ouais. Mais il faut en parler, je pense, c'est important.
Effectivement. On va repartir en musique et là, on va repartir au Québec avec CoFCAT. On voyage aussi l'entre d'union. L'émission Trait d'Union, nous parlions avec Élise et je crois qu'on va continuer un peu. Ce passage dans l'EHPAD, c'est quelque chose qui t'a marqué?
Oui, tout à fait. Ça a été une expérience très touchante. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai un très bon souvenir de cette expérience, mais c'est aussi une expérience très dure à voir, à vivre. Parce que les personnes partent, et on voit leur isolement au quotidien et leur détresse. Et c'est vraiment... ouais, ça m'a touchée.
C'est une acceptation de l'autre?
Oui. Oui, beaucoup. Et une écoute surtout, je sais que j'ai beaucoup appris et beaucoup grandi là-bas par leurs expériences et leurs vécus. À certains moments, il y avait vraiment cette sensation imagée de la personne âgée qui raconte ses histoires au coin du feu, quoi. On avait vraiment cette sensation-là quand on les écoutait parler. C'était toujours un régal.
On parle souvent des personnes qui souffrent de maladies, mais il y a aussi les aidants.
Oui, tout à fait.
Et ça peut être aussi très compliqué.
Oui, c'est une situation...
Tu peux parfois te sentir un peu désemparé, pas trouver les mots, pas trouver les gestes pour les réconforter.
C'est ça, le pire, c'est qu'il faut savoir l'accepter. Et c'est vraiment un travail sur soi-même d'être aidant, je pense, au quotidien. Il faut accepter que on n'a pas le pouvoir de changer les choses, mais être là et profiter surtout de chaque instant, je pense que c'est le plus important.
Tu désirais aussi leur apporter un bien-être à ces personnes qui souffraient malheureusement?
J'espère, et surtout l'objectif, c'est vraiment d'essayer de montrer au monde ce qui se passe et qu'ils se sentent compris dans ce qu'ils vivent et dans leurs ressentis, qu'ils puissent avoir une porte-voix. Porte-voix.
Que, l'émission, c'est trait d'union, c'est être le trait d'union, en fait, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot.
Oui.
Ton expo par elle-même, elle va démarrer en novembre, on va en parler quand même. Et à Gravelines.
C'est ça, le 6 novembre jusqu'au 27 novembre. Et il y a un vernissage qui est prévu le 6 novembre à 18h30. Donc, ça sera un plaisir pour moi de vous accueillir.
Salle François Mitterrand. C'est pas compliqué à s'en souvenir.
C'est ça.
On va repartir en musique avec le duo Barret. Et puis après, on va recevoir et on va rencontrer et mieux connaître Alexandre. Thank you. Radio SPL 91.8, l'émission Trait d'Union. Et c'est au tour maintenant d'Alexandre de nous parler de lui-même. Ton aventure par elle-même avec Propulse, elle démarquant. Parce que c'était une aventure.
Ah ouais, c'était une aventure. Alors déjà, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
Plaisir.
Alors, moi, c'est Alexandre, j'ai 31 ans. Donc, j'ai fait un BTS assistant de gestion PME-PMI. J'ai travaillé donc, en tant que concierge pendant 3 semaines en tant que remplacement, enfin, pour du remplacement. J'ai travaillé après beaucoup en usine, donc c'était tout ce qui était Arc, Verpom. Et la Propulse, ça m'a été proposé par mes conseillères parce que depuis 2020, je souffre de dépression et d'anxiété. Donc mes conseillères sont au courant de toute ma situation et elles ont vraiment tenu à ce que je participe à ce dispositif parce que c'était quelque chose qui justement aurait pu m'aider à sortir justement de
mon isolement.
Ouais, exactement. Parce que je ne sortais plus, j'avais plus de contact avec qui que ce soit.
Tu te renfermais sur toi-même, on peut dire ?
Ah, j'étais complètement renfermé sur moi-même, j'avais plus de contact avec qui que ce soit parce que j'avais rompu contact avec absolument tout le monde. Vraiment une période assez sombre, j'ai envie de dire, de ma vie. Et ouais. J'étais vraiment dans un dispositif...
Proche du burn-out ou...
C'était plus des raisons personnelles que j'avais accumulées pendant pas mal de temps et puis qui arrivent à un moment donné ont fait que tout a explosé. Donc ça m'a frappé de plein fouet, on va dire.
Ta formation première, en fait, il y a eu une petite erreur d'aiguillage. C'est quelque chose que tu as réalisé par dépit. C'est pas vraiment ton...
Tout à fait.
Ton envie.
Oui, de base, j'étais parti pour faire un BTS MUC sur Lille, mais je me suis rendu compte très vite, pour diverses raisons, que ça ne m'intéressait pas. Et pour ne pas rester déscolarisé, je suis retourné dans mon ancien lycée qui proposait justement le BTS assistant gestion PME-PMI. Et ils m'ont accepté. J'ai été jusqu'au bout, mais vraiment, c'était juste pour ne pas être déscolarisé.
C'est une force quand même d'avoir pris conscience du problème qui t'entourait.
Avec le recul, oui, je me rends compte que j'aurais pu abandonner à tout moment. Donc, j'ai quand même, quand je me lance dans quelque chose, en général, j'essaie toujours de faire en sorte d'aller jusqu'au bout de la chose. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois où on se rend compte que on n'est pas dans la bonne direction et on peut pas tout lâcher en permanence. En fait.
C'est quand même parfois compliqué aussi de se remettre en cause.
C'est très compliqué, oui. Très, très compliqué. Moi, ça m'a pris énormément de temps et là, je suis sur la bonne voie, j'ai envie de dire. Sur la bonne voie.
Tu recherches une zone d'amélioration par l'intermédiaire de Propulse ? On te guide ?
Alors,
un détaillage, il y a une reconnaissance.
Déjà, en fait, moi, c'était surtout reprendre confiance en moi parce que je suis quelqu'un qui avait énormément de problèmes de confiance en moi. Je doutais énormément de mes capacités. J'ai beaucoup entendu, étant plus jeune, que j'étais un bon à rien, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment...
De la part de tes professeurs, des parents,
d'un parent, ouais.
Ah ouais.
Ça. Donc,
et ça mine en fait.
Ah, ça mine totalement. Bah oui. Parce
et tu finis par le croire.
Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire et puis j'ai eu des bâtons dans les roues parce que toujours on rabaissait ou quoi que ce soit. Donc arrivé à un moment donné, on se dit en fait on est vraiment bon à rien en fait. Hein. Donc il y a beaucoup de choses que je me sentais pas capable de faire et puis grâce à Propulse, je me rends compte que au final je suis pas un bon à rien en fait. Je sais quand même me débrouiller. Ok, il faut que j'apprenne. J'ai un petit temps d'adaptation, mais une fois que je suis lancé, je suis parti.
Ouais. Tu disais qu'on te traitait de bon à rien. Tu as été à un certain moment, on va dire, un peu addict aux jeux vidéo. C'était un moyen de te protéger, de te mettre dans une coquille ?
Oui, parce que je cherchais plus ou moins à quitter le
monde du réel. Tu voulais quitter le monde du réel ?
C'est ça, je voulais vraiment m'isoler dans quelque chose qui me permettait de me sentir un peu mieux et puis éventuellement me plonger dans un univers qui reflétait un petit peu ma façon de penser. Donc,
Ta rencontre avec Isabelle se fait de quelle façon ? Là aussi, tu vas frapper à la porte
Alors, pas du tout, parce que moi, comme je disais, c'est mes conseillères qui m'ont contacté pour me proposer justement ce dispositif. Donc, moi, j'ai vraiment été en contact avec personne. C'est littéralement mes conseillères qui m'ont proposé, qui m'ont harcelé, en fait, pendant une journée, à m'appeler et à chaque fois...
T'as pas de chance, même les conseillères, ils te harcèlent.
Non, mais c'est du bon harcèlement, Et j'ai réussi à
décrocher... C'est du stress positif.
Ouais, parce que du coup, quand il m'expliquait le dispositif, tout ça, je me suis dit, encore quelque chose, on va me demander de travailler mon CV, ma lettre de motivation, tout ça. Donc moi, du coup, j'étais pas spécialement emballé, mais quand ils m'ont expliqué un petit peu le projet, que c'était pour des personnes bah, éventuellement qui avaient des problèmes de confiance en eux ou quoi que ce soit, ou qui étaient isolées, bon, bah, directement, je me suis dit, bon, on va donner sa chance. Et comparé à certaines formations que j'ai pu faire, j'y suis allé sans vraiment traîner les pieds, quoi.
T'avais envie.
Je me suis dit, bah, on verra bien. Ça me fera sortir de ma zone d'isolement, de ma zone de confort, comme j'avais déjà un petit peu commencé un peu plus tôt dans l'année à me reprendre en main, reprendre ma vie en main, en fait. Bah, je me suis dit, vas-y, on va continuer.
À ce jour, ton projet professionnel, il est lequel ?
Bah, mon projet professionnel reste encore un peu flou parce que bah, justement, un petit peu avec mon passif, tout ça, je cherche encore un petit peu ma zone, mais disons que j'ai envie de partir, m'orienter dans l'informatique. Parce que c'est quelque chose bah, que je côtoie quotidiennement. Et puis, bah, dès que je rencontre un problème, par exemple, sur mon PC ou pour faire quelque chose ou quoi que ce soit, bah, je sais où chercher, comment chercher. Et je cherche à mettre en œuvre bah, les explications qui me sont données.
Tu voudrais quoi ? Créer des programmes ?
Ça reste un peu flou. Éventuellement, bah, j'ai envie de dire, je vais voir, il faut que je teste.
Ouais.
Que je teste éventuellement création de site web, ça pourrait être ouais, de la réparation.
Avoir ta propre boutique peut-être aussi.
Ça serait, c'est ambitieux, bon. Mais pourquoi pas pourquoi
puisqu'il pas. Y a quand même énormément de gens qui sont en demande de réparation, d'explication.
Mm-hmm. Bah oui, pourquoi pas. C'est vrai que c'est quelque chose bah, qui, quand j'étais plus jeune, m'intéressait énormément parce que j'avais fait énormément de stages justement dans la maintenance informatique.
Mais tu as encore toute la vie, Alexandre.
Ah oui, oui. Ouais, mais quand j'étais plus jeune, je parle quand j'étais au collège. Donc oui, voilà.
Donc, aujourd'hui, t'es heureux ? T'es rassuré ?
Je suis rassuré. On va dire que j'ai beaucoup plus confiance en moi. Bah, par exemple, je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu envisager il y a un an de faire.
Ah, oui.
Ouais, c'est vraiment à ce point-là. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est un bon exercice. C'est un bon exercice.
Tu vas t'en souvenir, tu vas en être content.
Ouais.
Je suis certain que quand tu vas sortir d'ici, tu vas dire, oh, j'aurais dû parler de... Ça arrive très
sans
souvent.
Doute, sans doute. Bah, je sais que je ressasse beaucoup les conversations ou la journée. Donc, certaines choses que j'ai pu dire ou certaines choses que j'ai pu faire, elle me dira, ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça ou j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon, avec le recul, on se dit, bah, ça a été comme ça a été.
Le regret, c'est quand même pas ton maître mot.
Non, maintenant, j'essaie de partir du principe, je préfère avoir des remords que des regrets.
Voilà. Tu dis, tu l'as fait. Au moins, l'as fait.
Je l'ai fait et je n'ai pas la question du...
Tu t'es pas sauvé, t'as pris tes responsabilités, ouais, c'est ça qui est important.
Exactement.
Parce que tu parlais de confiance en soi.
Exactement.
Alors, eh bien, moi, j'ai confiance parce qu'on va réécouter Naragonia, que j'apprécie énormément. On va remercier Anne pour la technique.
L'écorce du chêne, fourmille de vie, cerf-volant, capricorne, hanneton. Au corps des lichens, une chenille endormie qui demain deviendra papillon. Racines en terre, indifférent, paisible, immense monde. Grand et s'élance, feuilles au vent, fait la lumière. Au fait du chêne, un nid de brindis, adroitement soustrait. Au regard, une griffe musicienne protège sa famille, là où seul le soleil peut les voir. Racines en terre, indifférents, paisibles, immense monte. Grandis, s'élance, feuilles au vent, fait la lumière. À l'ombre du chêne, de jeunes amoureux ont trouvé le bonheur par hasard. Ils sont demeurés pour poursuivre leur jeu, découvrir la suite de leur histoire. Au fond, fait la lumière.
L'émission Trait d'Union qui va bientôt se terminer. Quand on est en bonne compagnie, ça passe toujours très très vite. Le projet Propulse par lui-même, Isabelle, toi tu le portes avec ton cœur.
Oui, bien sûr.
Autrement, on ne peut pas faire ce genre de choses.
Ah ben non, pas du tout. C'est un projet qu'on porte effectivement avec passion. Vraiment, ça nous a emballés et on a passé quelques heures de travail sur ce projet. Mais bien sûr, c'est bien pour ça qu'on se lève tous les matins finalement. Ouais.
Avec, en compagnie d'Élise et d'Alexandre, il y a des liens d'amitié, des liens de confiance qui se tissent.
Oui, je l'espère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre dispositif sur le contenu même est organisé en promotion de 12 personnes. Voilà, nous réaliserons ça sur 3 lieux, donc Hazebrouck, Armentières et Merville. Et chaque groupe est accompagné par un coach. Donc là, ce n'est pas moi qui suis la coach. Donc, Élise et Alexandre ont été accompagnés par Marie sur Hazebrouck. Et oui, les liens se créent puisqu'ils reviennent encore la voir de temps en temps. Donc, bien sûr, on est entre humains et c'est ça qui est important. On est sur un dispositif qui touche le cœur de l'humain, tout à fait.
Lorsque le projet par lui-même arrive à son terme, il y a d'autres projets qui sont en construction. Il y a un futur.
Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne qui va intégrer les ateliers Propulse va bénéficier d'un suivi au total pendant 10 mois. Hein, donc chaque promotion dure 6 semaines, mais le contact ne s'arrête pas à la fin des 6 semaines.
C'est bien le système de promotion, je trouve.
Oui,
c'est... Ça fait hautes écoles.
C'est assez dynamique. Mais c'est ça, on a voulu vraiment choisir aussi des choses qui sortent un peu des dispositifs classiques d'accompagnement. Là, on est vraiment sur une ligne innovation sociale, hein, c'est ça qui était important. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque groupe, finalement, met en œuvre un micro-projet citoyen. Voilà, les journées hein, pendant les 6 semaines s'organisent autour de ce projet. Chaque promotion, de fait, décide du micro-projet qu'il veut faire. Alors, je vous donne un exemple. Hein, à Armentières, par exemple, un groupe a réalisé l'interview de Monsieur le maire autour des questions de l'emploi du territoire. À Hazebrouck, un groupe a récupéré des vélos, les a rénovés, customisés et en a fait don à une association solidaire sur Merville.
Mais il y a toujours un projet.
Il y a toujours un projet qui est porteur en fait et qui permet finalement à chaque personne de mettre en avant ses compétences. On part du principe que chaque personne, qu'elle ait un diplôme ou qu'elle n'en ait pas, qu'elle ait de l'expérience ou qu'elle n'en ait pas, chaque personne a des compétences et a une pierre à apporter à l'édifice. C'est vraiment ça le cœur.
Chaque personne qui vient à Propulse est différente.
Bien sûr.
C'est différentes personnes que tu dois encadrer, que tu dois aider.
Oui, tout à fait. Mais c'est justement ça qui fait la force du dispositif. Là, on l'a vu, hein, Élise, par exemple, était très Élise. Créative.
Alexandre, peut-être ? Oui, il nous reste 2 minutes.
2 minutes, ouais. Alors on va faire vite. Voilà. Je précise également qu'un ensemble de partenaires viennent aussi au sein des groupes pour apporter leur expertise sur beaucoup de sujets et que nous avons aussi dans notre équipe une psychologue et une socio-esthéticienne qui animent des ateliers collectifs.
Éric, une petite conclusion, puisque tu avais ouvert le bal.
Oui, non, c'est juste pour dire à quel point moi j'ai été, quand j'ai eu connaissance de ce dispositif, c'est le côté un pas de côté qui a été fait par le dispositif et qui privilégie à la fois l'individuel et le collectif et la notion de projet. Et ça, je trouve qu'avec la libre adhésion, c'est quelque chose de très innovant. C'est-à-dire on peut à la fois y rentrer ou ne pas y rentrer. Et puis, c'est pas contraint. On rentre dans un projet avec une dimension collective. Et ça, je me dis, c'est quand même... et on l'entend à travers Alexandre, à travers Élise, ce que ça apporte en gain de confiance en soi, si je puis dire. C'est quand même mieux que d'être dans des contraintes ou des choses de très, très normées en termes d'insertion. Là, on prend un peu le grand large, quoi. Voilà, ouais. On prend le bateau. Voilà. Puis un petit salut à Flavien, de la même structure qu'Isabelle Lemoine, mais qui siège à la plateforme d'initiative locale La Toile Solidaire de Flandre.
Oh, d'accord. Je vous remercie d'être venu dans le studio. On va se quitter en musique, on va partir en Occitanie. Merci à Marik pour la technique.